Chapitre 55. Sa vie est un beau souvenir, son absence, une douleur silencieuse. Quand j'ai quitté le cimetière de Sacha, il était 18h. J'ai roulé en direction de Mâcon, au volant de la Fiat Panda pour récupérer l'autoroute. Le tigre blanc accroché au rétroviseur m'observait du coin de l'œil en se balançant nonchalamment. J'ai repensé à Sacha, à son jardin, à son sourire, à ses mots. J'ai pensé qu'une grève m'avait envoyé Célia et la mort de ma fille, ce jardinier au chapeau de paille. Un Wilbur Larch personnel, un homme entre la vie et les morts, sa terre et son cimetière, l'œuvre de Dieu, la part du diable. J'ai repensé au personnel de la colonie, de braves gens sans doute, eux aussi. J'ai revu les visages de la directrice, Edith Croquevieille, du cuisinier, Swann Letellier, de la dame de service, Geneviève Magnan, des deux jeunes monitrices, Héloïse Petit et Lucie Lindon, de l'homme d'entretien, Alain Fontanelle. Leurs visages se sont juxtaposés. Qu'est-ce que j'allais faire de leurs adresses? Est-ce que j'allais aller les voir les uns après les autres? En roulant, je me suis souvenu que le cuisinier, Swann Letellier, travaillait au terroir des souches à Mâcon. J'avais vu sur un plan que le restaurant était en centre-ville, rue de l'Héritant. Je n'ai pas pris l'autoroute. Je suis entrée dans Mâcon. Je me suis garée sur un parking situé à 200 mètres du restaurant, près de l'hôtel de ville. Une serveuse m'a gentiment accueillie. Deux couples étaient déjà attablés. La dernière fois que j'avais mis les pieds dans un restaurant, c'était chez Gino, le jour où j'avais déjeuné avec les parents d'Anaïs. Le jour où Léonine avait crevé les œufs en éclatant de rire. Cette journée, je l'ai revécue des milliers de fois. Le repas, la robe qu'elle portait, ses nattes, son sourire, la magie, le montant de l'addition, le moment où elle était montée dans la voiture des Cossins, où elle m'avait fait au revoir de la main, son doudou caché sous les genoux, un lapin gris dont l'œil droit menaçait de tomber et que j'avais tellement passé en machine qu'il en avait perdu une oreille. Il y a des heures que l'on devrait très vite oublier, mais les événements en décident autrement. Je n'ai pas vu Swann Letellier. Il devait être en cuisine. Il n'y avait que des filles qui s'agitaient au service. Quatre filles comme dans la tombe, j'ai pensé. J'ai bu une demi-bouteille de vin et presque rien avalé. La serveuse m'a demandé si ça ne me convenait pas. J'ai répondu que si, mais que je n'avais pas très faim. Elle m'a souri avec condescendance. J'ai regardé les gens entrer et sortir. Je n'avais pas bu depuis plusieurs mois, mais je me sentais trop seule à cette table pour boire de l'eau. Vers 21h, le restaurant affichait complet. Quand je suis ressortie en titubant, je me suis assise sur un banc un peu plus loin et j'ai attendu Swann Letellier, les yeux dans la pénombre. Tout près, j'entendais la Saône couler. J'ai eu envie de me jeter dedans, rejoindre Léo. Est-ce que je la retrouverais? Ne valait-il pas mieux se jeter dans la mer? Est-ce qu'elle était encore là? Sous quelle forme? Et moi, est-ce que j'étais encore là? À quoi rimait ma vie? À quoi avait-elle servi? À qui? Pourquoi m'avait-on posé sur un radiateur le jour de ma naissance? Ce radiateur était foutu depuis le 14 juillet 1993. Qu'est-ce que j'allais dire à ce pauvre Swann Letellier? Qu'est-ce que je voulais savoir au juste? La chambre avait brûlé, à quoi bon questionner le présent? Remuer la merde? Je n'avais pas le courage de remonter dans la Panda de Stéphanie, rentrée à la barrière, roulée dans la nuit. Au moment où j'ai voulu me lever, enjamber le mur derrière moi, sauter dans l'eau noire, un chat siamois est venu se frotter contre mes jambes, en ronronnant. Il m'a fixé de ses beaux yeux bleus. Je me suis penchée pour le toucher. Son pelage était doux, chaud, magnifique. Il est monté sur mes genoux, j'ai sursauté, je n'ai pas osé bouger. Il s'est allongé sur moi de tout son long, comme un poids mort sur mes cuisses, un garde-fou. J'allais pencher vers le vide et il m'en a empêché. Je crois que ce soir-là, ce chat m'a sauvé la vie, du moins le peu qu'il en restait. Quand les derniers clients sont sortis, que les lumières de la salle du restaurant se sont éteintes, Swann Letellier est apparu en premier. Je n'ai pas bougé du banc sur lequel j'étais assise. Il portait un blouson noir, dont le tissu brillait sous les réverbères, un jean et des baskets, la démarche chaloupée. Je l'ai appelé. Je n'ai pas reconnu ma voix, comme si c'était une autre femme qui l'apostrophait, une inconnue que j'hébergeais, sans doute l'effet de l'alcool. Tout me semblait abstrait. « Swann Letellier ?» Le chat a sauté par terre et s'est assis à mes pieds. Swann Letellier a tourné la tête vers moi, m'a observé quelques secondes avant de répondre, pas très rassuré. « Oui ?»« Je suis la mère de Léonine Toussaint. » Il s'est figé. Il avait le même regard que les jeunes que j'ai terrorisés le soir où je me suis transformée en dame blanche. J'ai senti son regard effrayé fouiller le mien. Alors que j'étais plongée dans l'obscurité, je distinguais parfaitement ses traits là où il était. Une des quatre serveuses est sortie du terroir des souches. Elle s'est approchée de lui et s'est levée dans son dos. Il lui a dit assez sèchement « Avance, je te rejoins ». Elle a tout de suite vu qu'il regardait dans ma direction. Elle m'a reconnue et lui a glissé quelque chose à l'oreille. Sans doute que je venais de siffler une demi-bouteille de vin à moi toute seule. La fille m'a toisée, puis elle est partie, en criant presque à Swann « Je t'attends chez Titi !» Swann Letellier s'est approché de moi. Quand il est arrivé à ma hauteur, il a attendu que je parle. « Vous savez pourquoi je suis là ?» Il a fait non de la tête. « Vous savez qui je suis ?» Il a répondu froidement « Vous avez dit, la mère de Léonine Toussaint. Vous savez qui est Léonine Toussaint ?» Il a hésité avant de répondre « Vous n'êtes pas venu à l'enterrement, ni au procès. » Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise ça. C'est comme s'il m'avait giflé. J'ai serré les poings jusqu'à m'enfoncer les ongles dans la peau. Le siamois était toujours près de moi, assis à mes pieds, il me fixait. Je n'ai jamais cru que les enfants étaient allés dans les cuisines cette nuit-là. Il m'a répondu sur la défensive. Pourquoi ? Une intuition. Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? Sa voix s'est voilée. On a essayé d'entrer dans la chambre, mais de toute façon, c'était trop tard. Vous vous entendiez bien avec le reste du personnel ? Il a eu l'air d'avoir du mal à respirer. Il a sorti un tube de ventoline de sa poche et l'a inhalé sèchement par la bouche. « Faut que j'y aille, on m'attend. » J'ai décelé sa peur. Les gens qui ont peur reniflent plus facilement celle des autres. Ce soir-là, assise sur ce banc, face à ce jeune homme inquiet et inquiétant, j'avais peur. J'ai senti que le feu qui consumait mon enfant la consumerait toujours si je ne découvrais pas la vérité. J'ai pas envie de repenser à ça. Vous devriez faire comme moi. C'est malheureux, mais c'est la vie. Parfois, elle peut être moche. Je suis désolée. Il m'a tourné le dos et s'est mis à marcher très vite, presque à courir. Sa réaction n'a fait que me conforter dans l'idée que rien n'était vrai dans le rapport adressé au procureur de la République. J'ai baissé les yeux. Le chat siamois était parti sans que je m'en aperçoive.